Les orages maléfiques, chapitre 3. Il remuait trop de souvenirs qui le torturaient au plus profond, à en avoir trop mal à l'âme. Il rejoignit la gare où l'express de nuit attendait les voyageurs en partance vers les montagnes du nord. Voulant bourlinguer avec le peuple, il refusa le billet et la place dévolue aux touristes. Ces derniers se trouvaient dans des wagons couchettes plus confortables et en meilleur état que le reste des compartiments. Le convoi s'ébranla dans la nuit. La fumée noire du moteur diesel n'arrivait pas à s'élever au-dessus du quai. Penché à la fenêtre, il ne distingua plus les marchandes ambulantes agglutinées aux portières des wagons en attente du départ. Un mélange d'odeurs d'huile et d'épices parvenait jusqu'à ses narines. Il comprit que tant que le train roulerait à vitesse réduite, le parfum dominant serait celui du combustible brûlé par la locomotive. Il quitta la fenêtre et s'installa sur un siège d'une couleur indéfinissable. Les wagons grinçaient et il sentait les raccordements des rails, le convoi étant ébranlé par des secousses qui lui rappelaient le grand 8 des fêtes foraines. Pour tuer le temps, les hommes jouaient aux cartes, un jeu dont ils ne comprenaient rien aux règles. Les femmes somnolaient, leur progéniture sur les genoux. Il se mit à fermer les yeux pour ne pas voir les enfants. Il n'y pouvait rien. Paupières closes, il distingua deux fillettes en robes immaculées. Il passa une nuit blanche au milieu du brouhaha que faisaient les joueurs. Il s'aperçut que des billets circulaient de main en main. Le jeu n'était pas innocent. Certaines levées de cartes devaient coûter cher aux perdants. L'air devenait irrespirable. La fumée des cigarettes envahissait les lieux. Il se réfugia dans le couloir où ses poumons pouvaient se remplir d'un peu d'oxygène. Le jour commençait à poindre. Les premiers rayons du soleil dépassaient la ligne d'horizon. Bientôt, le train s'engagerait dans un dédale montagneux. Tout au long de la voie, de chaque côté, les habitants se réveillaient, et ils pouvaient les distinguer devant leurs cabanes en bois. Les hommes, torse nus, se lavaient en puisant de l'eau dans une cuvette. Leurs compagnes, plus pudiques, se dissimulaient derrière des haies naturelles de bambou. Elles ne dénudaient qu'une infime partie de leur anatomie. Les voyeurs en étaient pour leurs frais. La toilette des bambins donnait lieu à des jeux, les mères les houspillant de les éclabousser. Eux s'en fichaient, la nudité étant la règle chez les plus jeunes. La machine poussive grimpait les côtes en crachant ses fumées noires. On aurait pu suivre à pied le convoi. Le paysage et le relief étaient différents. Les gens aussi. Il abordait la contrée la plus haute du pays. Les tribus montagnardes vivaient ici depuis les temps anciens. Il fallait les voir. Les silhouettes des autochtones se reconnaissaient entre mille. Leur morphologie différait sensiblement de celle des gens des plaines. Ils étaient plus petits et plus musclés. Les jambes des femmes laissaient apercevoir les muscles saillants. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les passagers s'imprégnaient de la vie des habitants. Tantôt, ils croisaient un buffle et son propriétaire qui partaient au champ, tantôt des écolières. Elles attendaient patiemment l'ouverture de l'école, fières et droites dans leurs costumes, toutes habillées à l'identique. Il les fixa longuement. Aucune expression ne transpirait sur son visage. Mais à l'intérieur, une petite musique lui rappela son passé douloureux. Viendrait-il à bout de son obsession pour les jeunes filles? Seul son cœur possédait la réponse à cette question. Pour le moment, il n'était pas prêt. La pluie modifia les règles du jeu. En quelques minutes, le soleil disparut et de gros nuages noirs s'ouvrirent pour déverser des trombes d'eau sur les montagnes. Heureusement, le convoi arrivait en gare, terminus de la ligne. Après, c'était le pays du grand frère. Des compartiments se vidèrent rapidement de leurs occupants. Malgré la vigueur de l'averse, chacun se répandit sur le quai, zigzagant entre les flaques. Les plus avertis marchaient recouverts d'un poncho en plastique bleu, jaune ou vert. D'autres, plus économes ou moins riches, s'étaient drapés dans des sacs poubelles. C'était tout aussi efficace. Il endossa son lourd sac à dos et ajusta son kawé. La foule s'était déjà répartie dans la cité. La gare lui rappelait celle des films de western. Le décor minimaliste semblait le même. La mousson prenait le pouvoir. Ce n'étaient plus des gouttes d'eau, mais des flots qui tombaient du ciel. Il s'abrita sous un toit de tôle. Le bruit était assourdissant sous cet abri de fortune. La voie entre les quais devenait une rivière boueuse. Et pourtant, il était seul dans cet endroit. Les voyageurs, plus au fait que lui, ne s'étaient pas arrêtés pour ça. Il profita de 5 minutes d'accalmie pour rejoindre la ville, un gros bourg avec des vestiges de l'époque coloniale. Les fonctionnaires envoyaient ici leurs familles pendant les grosses chaleurs. Le séjour en altitude était bénéfique pour tous. Pendant que Madame et la progéniture profitaient de l'air vivifiant et frais de la montagne, ces messieurs pouvaient s'encanailler avec les jeunes prostituées asiatiques, certains ayant installé leur maîtresse à disposition dans un appartement. Il trouva une chambre dans un hôtel qui fut jadis la résidence de l'administrateur de la région. Avec l'ouverture au tourisme, l'infrastructure hôtelière s'avérait insuffisante. Seule la période des pluies arrêtait les moins intrépides. Après s'être lavé et changé, il décida de faire un tour dans la zone du marché. Il aimait l'ambiance qui y régnait. Toute une rue était aménagée et couverte pour recevoir les étals des marchands. Ici, les minorités montagnardes se donnaient rendez-vous. L'appartenance à une tribu se décelait par les couleurs des vêtements et les coiffes des femmes. L'habillement des messieurs ne permettait pas à un œil profane de les différencier. Certaines s'étaient rasées une partie du crâne, tandis que d'autres arboraient une dentition à faire pâlir un bijoutier. De l'or recouvrait chaque dent. Il fut abordé par 2 jeunes filles qui ne devaient pas avoir plus de 14 ans. Elles lui offrirent leurs services moyennant rétribution. Il comprit tout de suite leur anglais approximatif. Elles proposaient de coucher avec lui et de pratiquer toutes les spécialités dont il aurait envie. Une grande tristesse l'envahit. Ici, dans ce coin reculé de la planète, l'argent se chargeait de tout pervertir. Il s'en prenait à ce qu'il y avait de plus précieux, anéantissant l'innocence de l'enfance. Il leur donna une pièce et continua son chemin. Il se doutait qu'un autre accepterait de jouer avec de la chair fraîche. La mousson ne s'accorda aucun repos. Elle s'abattit sur le territoire et provoqua un désastre sans précédent. Des torrents de boue dévalèrent des hauteurs et grossirent les rivières dans les vallées. Les flots déchaînés n'épargnèrent rien sur leur passage. Les ponts, les routes, les habitations et les gens subirent de plein fouet les ires du ciel. La météo ne rassurait pas pour les journées à venir. Partout, après avoir porté leurs morts jusqu'à leur dernière demeure, les montagnards besogneux s'attelèrent à reconstruire, réparer et consolider. Ils étaient durs à la tâche et résolus à lutter contre la fatalité et les éléments. Le combat s'avérait souvent inégal, mais qu'importe, la vie continuait. Ils voyaient des enfants participer aux travaux, petits garçons et petites filles à moitié nus, dans la boue jusqu'à la taille, transportés des seaux de boue. Personne ne se plaignait. Chacun assumait sa part de besogne s'en rechignait. C'est un des enseignements qu'il tira de cette catastrophe. Dans l'urgence, il s'était proposé pour aider à la remise en état des infrastructures, mais essuya un refus poli. La fierté des autochtones ne pouvait accepter la générosité d'un étranger. Il les regarda, ferma les yeux et se transporta ailleurs, séchant furtivement ses larmes, puis continua sa route.